Nous avions vu à la fin du poème intitulé Milton l'opposition que fait Blake entre la négation et le contraire. Et dans un vers mystérieux, il nous dit que la négation doit être détruite pour racheter les contraires. Car la négation, c'est d'après lui la raison. Et Blake est contre la raison pour ce que nous appellerions aujourd'hui l'intuition et que lui appelle l'inspiration et l'imagination. L'expérience métaphysique sera-t-elle une expérience d'intériorité ou d'extériorité? Sera-t-elle une expérience de subtilité ou d'opacité? Sera-t-elle une expérience de subjectivité ou d'objectivité? Et nous pourrions continuer par la continuité et la discontinuité. Et on peut tirer toute une poétique de cette première idée que nous voyons aujourd'hui, à savoir qu'il ne faut pas tirer son inspiration de la nature et du souvenir que l'on a des choses de la nature, et qu'il faut aller plus profond, et que à toute imitation, il faut opposer les créations de l'imagination. L'homme est supposé témoin des spectacles qui l'excluent. À vrai dire, on pourrait partir de là pour entreprendre une critique de l'idée d'extériorité, en allant vers une autre de nos antinomies. L'homme cherche à atteindre l'extériorité, mais c'est l'homme qui cherche à l'atteindre. Et l'homme et le rayon de lumière, par exemple, qu'il dirige sur l'électron, trouble la marche de l'électron, de sorte que l'objectivité est toujours mêlée des effets de l'action successive, de l'action est toujours mêlée de l'action subjective. L'observateur dérange l'observé. Et Blake dit, bien avant Nietzsche, de la foule, des hommes ordinaires, il dit qu'ils prennent les deux contraires qui sont appelés qualités, desquelles chaque substance est vêtue, ils les nomment bien et mal, et ils font d'eux une abstraction, ce qui est une négation, non seulement de la substance, dont tout cela est dérivé, mais de toute réalité, de tout divin membre de la divine réalité. Ce qui sépare le bien et le mal, c'est ce qu'il appelle le pouvoir résonnant. C'est une abstraction qui transforme toutes les choses en pure négativité. C'est que précisément, et c'est ce qu'implique par contraste le titre même du dialogue, une idée ne peut pas être fixe. C'est ce qui est dit précisément dans ce dialogue. Une idée ne peut pas être fixe, peut être fixe ce qui n'est pas idée. Il serait intéressant de comparer sur ce point la pensée de Valéry et celle de Hegel et aussi celle de Sartre, quand il parle du « pour soi ». Hegel, qui tente de dépasser l'opposition de l'intérieur et de l'extérieur, en affirmant qu'il n'y a pas d'intérieur qui ne s'exprime dans l'extérieur. Un sentiment purement intérieur, tel que le comprenaient les romantiques, est, du point de vue de Hegel, un néant, à la fois de sentiments et de pensées. Toute idée doit prendre place dans l'extériorité. Le système de Hegel est une manière, dans son ensemble, de nous montrer comment, chaque fois que l'homme avance dans l'histoire, qui est l'histoire de lui-même en tant qu'il pense, il fait un pas à la fois vers l'intériorité et l'extériorité, et qu'aucune des deux idées ne peut être réellement séparée de l'autre. Aussi, les romantiques allemands sont condamnés comme une sorte d'exemple de ce que Hegel appelle la conscience malheureuse, qu'il voit surtout et dans le Moyen-Âge et dans le romantisme. Et nous avions dit aussi que Blake est d'accord avec Barclay et les nominalistes pour condamner les généralités. Ce qu'il faut, c'est avoir les menus particuliers. Et il faut se garder de vouloir des généralités, car vouloir ces généralités, c'est détruire ce dont ces généralités sont nées. La relativité est si essentielle au réel qu'une existence parfaite doit accomplir un cycle par lequel elle brûle ce qu'elle a adoré et adore ce qu'elle a brûlé. La vie est destruction et construction infinie. Il précise l'idée de relation par l'idée d'écart. Tout ce que nous éprouvons, tout ce que nous voyons et sentons, ce sont des écarts. Des écarts entre ce qui doit être et ce qui est, entre ce qui a été et ce qui est et ce qui sera. Une idée est un mode de changement, un moyen ou un signal de transformation. Nous retrouverions la même observation et peut-être la même possibilité d'objection que tout à l'heure. Valéry ne tente-t-il pas à réduire l'idée au psychique, au domaine psychique? Peut-on dire que l'idée platonicienne est un mode de changement? Vis-à-vis de Descartes, nous n'avons que quelques passages de Kierkegaard, et un particulièrement important où il s'oppose au « je pense donc je suis » en disant que c'est là une erreur. Moins je pense, plus je suis, et plus je suis, moins je pense. Tout dépend ici de la définition des termes, car les termes pensée, existence, n'ont pas le même rôle pour Descartes et pour Kierkegaard. Pour Descartes, la pensée, c'est essentiellement la vue des idées claires et distinctes, la vue de ce qu'il appelait dans le premier stade de sa philosophie les natures saintes. Quand Kierkegaard prononce son « moins je pense, plus je suis », au fond, il est d'accord dans la définition de la pensée avec Descartes. Il est d'accord tout au moins jusqu'à un certain point, car la pensée pour lui, c'est moins la pensée cartésienne que la pensée hegelienne, que cette pensée qui suit le mouvement réel, rationnel de toute l'histoire. Et si nous nous cantonnons dans cette pensée, aussi bien que si nous nous cantonnons dans la vue des natures simples, nous ne sommes pas réellement au sens de Kierkegaard. Quelle est l'expérience métaphysique de Blake? Nous l'avons vu consister en deux ou trois choses qui sont liées. Affirmation du particulier et de la valeur du particulier. Négation des négations. Affirmation universelle en ce sens de toute particularité. Et ce sont les dernières lignes d'ailleurs du poème Jérusalem. Toutes les formes humaines identifiées, même l'arbre, le métal, la terre et la pierre. Vivant, progressant, retournant sans fatigue dans les vies des années, des mois, des jours et des heures, et s'éveillant au sein de la vie de l'immortalité. L'existence dans son ensemble est un ensemble précisément de rencontres. Partout dans l'esprit, dit Valéry, nous rencontrons des rencontres, des chances, des hasards, ce qu'il appelle des combinaisons genre rêve, où un vouloir vient s'agripper à une idée, ou bien une idée, n'importe laquelle, à telle autre. Peut-être ici y a-t-il chez Valéry un peu trop de restant d'une sorte d'associationnisme, d'atomisme psychologique. Peut-être y a-t-il plus de totalité dans les idées qu'il ne le dit. Et les rencontres n'expliquent pas tout, mais il y a là cependant un élément important sur lequel il attire notre attention. La pensée, c'est tout ce qui nous arrive en tant que nous sommes pensants. C'est-à-dire qu'un sentiment, une passion, est aussi bien une pensée qu'une idée claire et distincte. Néanmoins, quand Descartes prononce le « je pense, donc je suis », il veut dire que j'ai une idée distincte de ma pensée. Et malgré tout, il y a des lois, nous l'avons dit, et nous le voyons encore mieux en passant du psychique au physique. Il y a des lois qui ordonnent cette incohérence devant laquelle d'abord nous nous trouvons. Et le savant cherche ces lois sous lesquelles vont se ranger les nombreuses petites incohérences et qui donneront à ces incohérences l'aspect d'un ordre. Descartes pense qu'il pense, Descartes pense d'une façon précise, qu'il pense d'une façon qui peut être vague et générale. Et cette pensée lui suffit pour conclure au fait qu'il est. Celui qui regarde le tableau, quand ce tableau est le monde, fait partie de ce monde et fait partie des objets qu'il étudie, quand ce ne serait qu'en projetant chaque fois la lumière sur ces objets. Il y a au-dessus des incohérences des lois. Et ce qui est, c'est une union des lois et de ces incohérences. La vie, est un, dit-il encore dans l'idée fixe, est un accident qui s'est fait des lois. Et dans le monde physique, le hasard et la nécessité s'accouplent plus ou moins monstrueusement. Une phrase de Bohr montre bien la conscience qu'ont ces physiciens d'arriver à des problèmes métaphysiques. Nous sommes parvenus, dit-il, à un point où la question de l'unité de la connaissance devient ambiguë comme le mot de vérité lui-même. Et ainsi, en même temps que l'on peut trouver dans la philosophie contemporaine l'indication que l'idée de vérité n'est pas une idée simple, que sans cesse nous sommes balloté entre une théorie de la vérité-subjectivité semblable à la théorie kierkegaardienne et une théorie de la vérité-ouverture et être, c'est la théorie heideggerienne, nous voyons dans les physiciens l'indication que la vérité reste un problème. L'espace est l'identité absolue. L'espace à soi pareil qu'il s'augmente ou se nie. Ainsi, l'espace est bien cette quantité telle que l'a définie Platon, susceptible toujours de s'augmenter ou de se diminuer. Mais qu'il augmente ou se diminue, il reste à soi pareil.
Nous vous prions d'écouter le cours de M. le professeur Jean Val, l'expérience métaphysique.
Nous nous étions trouvés plusieurs fois déjà en présence de notions qui s'opposent les unes aux autres, comme l'intériorité, l'extériorité, la subjectivité, l'objectivité. Et aujourd'hui, Je voudrais parler du fini et de l'infini et de l'indéfini. Quel est le rapport de ces questions que nous nous posons avec l'expérience métaphysique? C'est que, nous allons le voir, il y a une expérience du fini, une expérience de l'infini, peut-être y a-t-il une expérience de l'indéfini. Cela est plus discutable, et surtout ce qui est plus discutable, c'est la question de savoir s'il y a une expérience métaphysique de l'indéfini. Il s'agit d'interpréter l'univers et la figure que forment en nous les choses simultanées. Non pas que Claudel se borne à l'espace, car ces choses simultanées suivent d'autres choses qui elles aussi sont simultanées, et le temps est profondément relié à l'espace, et dans l'univers de Claudel, nous respirons, pour ainsi dire, le temps de même que nous respirons la simultanéité de l'espace. J'ai déjà dit que, dans la pensée grecque, le fini jouissait d'une sorte de privilège par rapport à l'infini, et est déjà mentionné les deux penseurs qui forment une exception dans la pensée grecque par la place qu'ils donnent à l'infini, c'est Anaximandre et c'est Mélissos. Nous ne savons pas exactement la raison pour laquelle Anaximandre a pensé l'infini comme source de toute chose et comme ce à quoi toute chose retourne. Il y a des expériences de l'activité et qu'il y a des expériences, à vrai dire, bien postérieures de la passivité. Le philosophe, le métaphysicien, a ordinairement exalté l'activité. Mais nous pouvons deviner qu'il ne s'est pas contenté des explications par l'air, le feu ou l'eau, qu'il a cherché quelque chose qui fût universel et que, voyant partout des étangs finis, il a pensé que la source de toute chose finie, c'était l'infini. Et pour lui, la finitude est une sorte de faute et amène des fautes. De sorte que nous pourrions très bien prendre le titre d'un des derniers livres de Paul Ricoeur comme devise pour la philosophie d'Anaximandre, finitude et culpabilité. Être fini, c'est être coupable. Pour Anaximandre, c'est parce que chacun des éléments finis tente d'empiéter sur les autres et donc commet ainsi une faute. Et ces fautes sont châtiées, et à la fin du processus, nous devons revenir, pense Anaximandre, à l'infini. C'est cette force créatrice de la nature que nous sentons dans une phrase comme celle-ci. Toute chose à toute heure, avec son intime assentiment, travaille par la même inspiration qui mesure sa propre croissance, élabore un mystère qu'il faut de nécessité surprendre. Il y a donc là aussi un courant universel comme l'élan vital, et l'homme est en marche dans ce courant, le navire humain est en marche dans ce courant. Mais ce n'est pas seulement en suivant la ligne de pensée qui va de Platon à Aristote et que nous avons en quelque sorte remonté en allant d'Aristote à Platon, que nous pouvons voir l'idée d'activité. Les stoïciens insistaient sur l'énergie universelle, non pas en termes platoniciens, mais plutôt en termes héraclitéens. Il y avait une force d'action, analogue à la fois au feu et à la raison, qui était au centre de l'univers. L'idée d'instant fait son apparition, semble-t-il, dans le Parménide de Platon, au moment où il se demande comment on passe d'une des formulations de l'unité de l'être à l'autre formulation qui est toute différente. Et il dit que le passage de l'une à l'autre se fait dans ce quelque chose d'impensable, d'absurde, de sans lieu, privé de topos, de lieu, qu'est l'instant. Il y a une autre question qui se pose, c'est de savoir quels sont les rapports entre les choses et les propositions. Les propositions sont au sujet des choses. Quel est le sens de ce « au sujet de » ? Quel est le rapport de l'extériorité empirique et de l'extériorité des propositions ? C'est un sujet qui, je crois, n'a guère été abordé par les philosophes de la philosophie analytique. Il y a un certain repos qui doit compléter tout mouvement, celui auquel fait allusion Claudel dans le titre d'un de ses drames, Le repos du septième jour. Tout mouvement a pour résultat, dit-il, la création ou le maintien d'un état d'équilibre. Si Schelling s'était irrité devant les divisions qu'avait opérées Fichte, Hegel s'irrite devant l'identité telle qu'elle est formulée par Schelling. Car c'est malgré les affirmations de Schelling, une identité qui semble inerte à Hegel. Il faut donc une fusion plus profonde entre l'esprit et les choses. Au fond, il faut montrer que les choses sont constituées par l'esprit. Un état où la forme paraît elle-même. La forme, définit-il, figure de composition, équilibre, tout ce qui est, travaille à être d'une manière plus complète, c'est-à-dire à construire l'idée en quoi il puisse s'agréger à ses différences organiques. C'est au fond une vision aristotélicienne qui d'abord est écrite dans cette phrase. Mais derrière cette vision, il y a toujours ce mouvement profond du monde qui va, je crois, en deçà d'Aristote vers l'idée primitive de nature, plus primitive même que Claudel ne se le figure. Et nous retrouvons donc l'idée d'action chez Hegel, d'une action qui englobe la totalité de l'histoire de l'univers, jusqu'à ce que celle-ci soit tout entière, en quelque sorte, absorbée dans la transparence de l'esprit à la fin de l'évolution. Ces formes elles-mêmes sont en un perpétuel travail, se font en quelque sorte. Il y a donc un organisme qui se crée tout au long du temps du monde, de l'histoire du monde. Mélissos, qui est un disciple de Parménide. Parménide avait présenté cette sphère complète, essentiellement finie, il le dit lui-même, dans les grands liens du fini, qui était la totalité de la réalité pour lui. Mélissos a pensé que du moment que c'était la totalité de la réalité, le fini ne lui convenait pas et qu'il fallait invoquer l'infini. Comme la revanche et la réponse de l'intériorité à la suppression que Hegel avait voulu opérer de l'intériorité. Et c'est un des problèmes qui a dominé l'esprit de Kierkegaard. En quoi le système de Hegel est-il radicalement insuffisant? Si nous voulons chercher le concret, il semble que nous devions nous arrêter aux choses elles-mêmes, comme disent les phénoménologues, et étudier ce que sont les choses. Mais les choses se dissolvent devant notre regard. Non pas d'une façon tout à fait semblable à celle de l'instant, mais elles ne s'en dissolvent pas moins. Et nous pouvons dire que chaque fois que nous pensons à une chose, c'est d'abord à une chose fabriquée, à une chose faite de mains humaines, qui appartient à ce que, en traduisant Heidegger, on peut appeler le domaine des outils et des ustensiles. Et pour prendre le point le plus interne, en quelque sorte, de cette opposition, nous pouvons dire qu'elle se fonde sur l'opposition entre la négation du secret chez Hegel et l'affirmation du secret chez Kierkegaard. Négation du secret chez Hegel, car nous avons dit que rien de ce qui est exprimé n'existe véritablement pour Hegel. Cette lampe est une chose, mais elle est une chose évidemment faite par la main de l'homme. Et si on veut chercher des choses dans la nature, il sera beaucoup plus difficile, il sera peut-être impossible de les trouver en dehors des êtres vivants. Mais les êtres vivants eux-mêmes sont liés à ceux qui les ont engendrés et aussi à leur milieu. Et donc, il est très difficile de partir de la chose et d'essayer de la décrire, puisque si nous fixons nos regards sur elle, elle tend à s'évanouir et elle disparaît. Affirmation du secret chez Kierkegaard, car il sait bien qu'il a son secret ou ses secrets. Il n'y a pas lieu sans doute d'insister sur la plupart des successeurs de Hegel, et peut-être pourrait-on, comme tente de le faire Heidegger, rattacher dans une certaine mesure l'effort de Nietzsche à celui de l'idéalisme allemand. Qu'est-ce que la vérité ? Sans doute ne pourra-t-on jamais le dire exactement, sauf en précisant le domaine dans lequel on veut appliquer cette idée. La vérité est un rapport, nous dira-t-on d'abord. Mais l'idée même de rapport peut prendre des significations bien diverses, suivant que l'on entend par le rapport entre l'idée du sujet et la chose représentée. Nous aurions alors la définition aristotélicienne et thomiste de la vérité. Il peut y être rattaché en ce sens que, se conformant à certaines idées de Leibniz d'abord et de Schelling et Hegel ensuite, Nietzsche veut nous montrer la force qui est à l'intérieur de la nature. Et maintenant, l'esprit n'est plus identique à la nature, il n'est qu'une sorte d'excroissance de la nature. Mais ce qui domine encore nature et esprit, c'est la volonté de puissance qui est la substance de tout étant. Ou que, comme Kierkegaard, on veut que ce soit un rapport d'intensité qui lie l'esprit existant à son objet inconnu et qui n'est que par le rapport que nous avons avec lui. Telle est la théorie de Kierkegaard quand il dit que la vérité est dans la subjectivité. La connaissance est formation et information. C'est le mot même qu'emploie Claudel. Aujourd'hui, il a pris un sens un peu différent, mais on pourrait trouver des analogies entre la pensée de Claudel et même les théories récentes de l'information, au moins la pensée de Claudel telle qu'elle est dans l'art poétique. Cette connaissance peut prendre le nom d'information, dit-il, puisque la fin en est la production d'une forme. Et il serait intéressant de suivre cette idée, ce vocable d'information. Depuis l'usage qu'en fait l'aristotélisme, jusqu'à celui qu'en fait Kant, jusqu'à celui qu'en fait Claudel, et puis celui qu'en font Wiener et les modernes cybernéticiens.